Vous écoutez RTL.
Et vous écoutez RTL, il est 11h passé de 3 minutes et vous êtes en compagnie de Stéphane Bern.
Exactement. Bonjour Quentin. Et on retrouve Quentin Vinet à midi. Oh, monsieur Hardit, il parle. Ah, bah, on retrouve Quentin Vinet. Il a une belle voix. Une voix de stentor. Évidemment, eh bien, vous l'avez reconnu, c'est Pierre Arditi qui est avec nous ce matin avec Emmanuel De Vos. Bonjour.
Oui.
Vous avez une voix plus aiguë.
Oui, voilà. Vous faites très bien, mais...
Eh bien voilà. Ça fait tellement plaisir d'être filmé par cette caméra qui déforme tout. Déjà, je fais un certain âge, mais là, j'ai l'impression que j'ai le double.
Ah, c'est vachement sympa.
Est-ce qu'on peut couper cette saloperie?
Vous avez mauvais teint, surtout on est vert.
Oui. Mais c'est que des gens qui peuvent nous voir. C'est pour ceux qui sont très loin et qui nous regardent sur RTL.fr.
Très loin.
Mais là, beaucoup de gens nous écoutent à la radio.
RTL.fr.
FR France.
Voilà. Articule.
Oui, j'articule. Alors, on va parler de l'actualité aussi avec Régis Maillot sous forme de jeu. Bonjour.
Bonjour à tous.
Il y aura évidemment le zapping télé d'Éric Dussard.
Bonjour à tous. De l'amour.
L'amour dans le pré.
Et de la haine. Qui a tué François Fillon?
J'ai peur. C'est François Fillon.
La question reste ouverte, même après le documentaire. Mais on en reparle.
Et c'est pas parce que vous allez monter sur la scène du théâtre Édouard VII, mais on va beaucoup siffler en première partie d'émission, puisque.
Deuxième partie, puisque
nous recevons Fred Radix, dit le siffleur.
Bien sûr.
Il viendra siffler pour nous, mais il sifflera aussi votre quiz.
Voilà. Ouais, moi, je l'ai laissé siffler.
Ça va être un beau bordel, ce quiz, encore.
Non, ça va siffler. Il siffle très bien. Moi, j'ai vu tout à l'heure.
Vous l'avez vu?
J'ai entendu siffler.
Il y a un très beau cadeau, il faut le dire, à la clé.
Pour vous.
En tout cas, vous allez faire gagner nos auditeurs avec un séjour au Futuroscope pour 4 personnes. Voilà. Téléphonez au 3210 ou envoyez le mot bonheur par SMS au 74 900, mais je vous présente nos invités. Il aura certainement un jour sa statue en majesté dans le hall du théâtre Édouard VII. Lui qui a attiré les foules, quelles que soient les pièces qu'il joue, les rôles qu'il endosse. Certes, cela doit faire au moins 2 mois qu'il n'a pas été tous les soirs sur une scène de théâtre. Et ce comédien français, qui est l'un des plus demandés, a même ralenti le rythme parce qu'il ne joue plus qu'une seule pièce à la fois maintenant. Parce qu'on l'a connu, il en jouait 2 le même soir. Il a même accepté de se vieillir pour prendre le rôle d'un vieux professeur qui vit reclus avec sa radio pour seule compagnie, parce qu'il savait qu'il allait retrouver celle avec qui il avait joué tailleur pour Dame dans ce même théâtre Édouard VII. Leur rencontre n'est donc pas fortuite, pas plus que dans la pièce, quelque part dans cette vie, du dramaturge américain Israël Horovitz. Et je m'en voudrais de réduire en miettes le suspense en vous révélant maintenant pourquoi ce prof qui a été la terreur de ses élèves voit débarquer cette jeune femme qui n'est pas là par hasard. C'est une joie de les retrouver ensemble sur la scène du théâtre Édouard VII. Peut-être aussi un acte de résistance, car partout aux États-Unis, on déprogramme les pièces d'Horowitz, comme on boycotte les films de Woody Allen. Tant il est vrai que parfois, hélas, les monstres sacrés sont de sacrés monstres. Avec nous ce matin, Emmanuel De Vos et Pierre Arditi. Vendredi prochain, vous commencez donc quelque part dans cette vie d'Israël Horovitz. Alors, je vais tout de suite évacuer ce qui pourrait faire polémique, comme ça au moins on est débarrassé, on peut faire une émission nous fâcher. À la suite de l'affaire Weinstein, Israël Horovitz est accusé d'agression sexuelle par 9 femmes. Aux États-Unis, les théâtres le déprogramment. Ça n'a rien changé pour vous, c'est un immense dramaturge.
Je ne sais pas si vous avez remarqué que nous ne sommes pas aux États-Unis.
Oui.
Grâce à Dieu. Et je n'ai rien contre les États-Unis, quoique ces derniers temps, ce n'est pas forcément brillant. Et effectivement, nous ne sommes pas aux États-Unis, nous sommes en France, qui est un pays, une république démocratique, et nous défendons une œuvre et nous ne jugeons pas un homme. Voilà. Alors après, jusqu'à preuve du contraire, si je comprends bien, la justice suit son cours, mais aux États-Unis, on a un peu tendance à décapiter les gens avant même d'avoir prouvé leur culpabilité. En France, Dieu merci, on fait plutôt le contraire.
Voilà. Et ben voilà,
ce qui ne retire rien à ce qui peut-être
s'est passé.
Vous avez sa pièce sous la main, adaptée en plus
par Jean-Loup Dabadie.
Par Jean-Loup Dabadie, ce qui n'est pas rien.
Qui a une grosse part de responsabilité. Non, mais voilà. Bon, après,
de francisation de la pièce même. Qui est un peu de douceur.
Non, elle n'est même pas francisée, mais elle est suffisamment...
Elle est plus douce que la pièce américaine, non?
Oui, enfin, il a surtout changé la direction de...
des événements. Ouais. Il a distillé un peu plus, c'est moins brutal.
C'est moins brutal.
Et
ouais.
Il est vrai que les pièces américaines, moi j'ai remarqué, dans même Tennessee Williams, c'est toujours un peu pénible en français. Les babies qui deviennent bébés, ou les chicken qui deviennent mon poulet, c'est un peu étrange. Et c'est vrai que c'est vraiment des pièces qui ont besoin d'une vraie adaptation pour l'oreille, le spectateur français. Et Jean-Loup Dabadie a fait un travail merveilleux.
Alors, on va parler maintenant de quelque part dans cette vie, mais je vous ai préparé une interview quelque part.
Vous écoutez RTL.
RTL,
à la bonne heure.
Stéphane Bern.
Et nous retrouvons Emmanuel De Vos et Pierre Arditi quelque part dans cette vie. C'est au théâtre Édouard VII, ça commence vendredi. Alors, une interview quelque part. La réplique qui donne son titre à la pièce est l'une de vos répliques, Pierre. Nous sommes ensemble quelque part dans cette vie.
Oui.
Est-ce que, comme dans la chanson de Maxime Le Forestier, c'est important d'être né quelque part?
Vous avez 2 heures.
Bien. Alors là, mes enfants, on n'est pas sortis de l'auberge.
Non mais c'est vrai, c'est intéressant.
On est né quelque part, et après, de ce quelque part, on fait quelque part ailleurs, parfois.
Vous sentez plus français qu'américain, par exemple, aujourd'hui.
Oui, je me suis beaucoup plus français qu'américain, mais j'aime beaucoup l'Amérique. Ouais. Mais enfin, cette Amérique-là ne me botte pas, comme on dit, pour être poli. Celle-là, c'est pas mon truc. Voilà, non.
Mais et vous, Emmanuel, vous êtes de quelque part.
Oui, je suis de quelque part. Après, c'est une base, voilà. Où on fait ce qu'on veut. Puis il y a des gens qui ont vocation à se balader de force ou de gré ou de force, mais voilà, ça. En même temps, ça veut rien dire. Et puis, il y a une chanson de Brassens qui est bien là-dessus. C'est né quelque part. Comment c'est quoi cette chanson? Ça y est, je m'enlise. Je passe à autre chose.
C'est pas Maxime Le Forestier, justement, être né quelque part.
Non, mais Brassens, il a écrit une chanson.
Patrice, vous qui êtes l'adaptateur de Brassens,
qui sont nés quelque part.
Voilà, qui sont nés quelque part. Enfin, c'est pas forcément non plus un blanc-seing pour une belle vie, pour se sentir légitime de quoi ou qu'est-ce. Oui.
En tout cas, quelque part, il y a toujours un bon vin qui vous attend et du public. N'est-ce pas, Pierre?
J'espère. C'est jamais éternel, tout ça.
Il faut toujours.
On va vérifier ça avec Emmanuel, parce qu'on est vraiment dans les derniers lacets des répétitions. Et on est comme, je disais tout ça, on est vraiment comme des enfants qui vont rentrer à l'école et qui ne savent pas sur quel professeur ils vont tomber, sur quel copain ils vont se faire, et si ça va pouvoir marcher ou ça ne va pas marcher.
C'est et vous avez chaque fois le même sentiment.
Emmanuel, elle est quand même beaucoup plus jeune que moi, heureusement pour elle d'ailleurs, mais moi, je suis quand même un vieux briscard. Maintenant, c'est exactement la même chose. Il n'y a pas moyen de se dire, bon, allez, ça va, ça fait 50 ans que j'en vends, je ne démerde pas du tout. Mais alors, absolument. Heureusement d'ailleurs. Mais
c'est bon signe.
Enfin,
c'est ce qui fait que vous abordez tous les rôles.
Il y a des moments, vous voyez, je n'ai pas dormi cette nuit. Pourquoi? Sans doute parce que j'ai un peu comme ça.
Il faut dire aussi que pour Pierre, c'est un rôle, je pense, qui va vraiment marquer sa carrière.
Oui.
Il aborde les choses de manière. Enfin, moi, je le vois depuis un mois et demi, tous les jours. Il va très, très loin. Et je pense qu'il va être vraiment. Il fait très américain, il fait très vieux prof américain, il fait une légère composition aussi, enfin je sais pas comment il nous traficote ça, mais ça va beaucoup étonner les gens.
En tout cas, on sent que vous êtes heureux de vous retrouver sur scène.
Ah oui.
Ah oui, très.
Oui.
Mais parce qu'il y a très peu d'acteurs comme... c'est facile de jouer avec les grands acteurs. Et il y a très peu d'acteurs comme Pierre qui ont cette passion. C'est pour ça qu'il est mort de trac et qu'il ne dort pas la nuit. C'est parce qu'il a toujours la passion pour son métier. Et il a une façon de vivre en scène qui est... Moi, je trouve ça... Quand il m'engueule sur scène, j'ai envie de le tuer. J'ai envie de me venger. Tout est facile. Tous mes sentiments que mon personnage doit ressentir, je les ressens parce que lui, il envoie du bois, mais comme peu. Hein, mais je vous assure, c'est vrai.
Mais, enfin, j'en ai autant à son service. Hein.
Oui.
On joue jamais. Enfin, oui. Moi, je fais partie des gens qui n'aiment pas jouer seul.
Oui.
Alors, d'abord, c'est un choix d'avoir décidé de se retrouver en scène.
Ah oui, c'est vrai.
Et ensuite, si j'envoie du bois, elle envoie du fer. C'est pareil, quoi. Je veux dire, on est heureusement tout à fait client de ce que fait l'autre. Donc, dès qu'il y en a un qui en balance une miette, l'autre l'avale immédiatement et en rejette une autre. C'est la vie du théâtre. Quand elle est heureuse, C'est ça la vie du théâtre. C'est
pour donc ça, ça s'annonce bien.
Bah, pour nous, oui. Après, oui. Il faut que tous ces gens qui
parce
sont
que dans
là,
un instant, je vais expliquer.
Qui nous écoutent.
On va expliquer l'argument de la pièce dans un instant. Et c'est vrai que ça donne très, très envie. Puis, on peut dire ce qu'on veut, mais Israël Horovitz, c'est un immense dramaturge.
Bien sûr, bien sûr.
Et donc, on a très envie d'aller voir la pièce. Et on va justement raconter l'argument dans un instant. A tout de suite.
Vous écoutez RTL.
Stéphane Bern.
À la bonne heure.
Sur RTL.
Et nous sommes avec Emmanuel Devos et Pierre Arditi pour parler, eh bien, de. Quelque part dans cette
fin,
vie.
C'est les derniers instants.
Les derniers instants.
Voilà. C'est le veto, mais il ne peut plus.
Il a révélé la fin de la pièce. Et je ne l'ai pas fait. Alors, immense auteur de théâtre, je le disais, adapté par Jean-Loup Dabadie, ce qui est pas mal non plus. Une mise en scène de Bernard Murat, ce qui n'est pas rien non plus. Il connaît son métier. Plus vous deux à l'affiche, Emmanuel Devos, Pierre Arditi. Bon, à deux, vous devez multiplier les Césars et les Molières. Je n'ai pas fait le compte, mais ça fait pas mal. Bref, ça s'annonce. D'abord, l'affiche, c'est une affiche, comme on dit, et ça s'annonce comme un grand succès. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, une question avant qu'on entre dans l'argument de la pièce, que pour attirer du monde au théâtre, il faut comme ça deux immenses comédiens,
un grand auteur,
etc. Que,
non, bah, il faut un grand auteur, oui.
Un auteur,
une bonne pièce.
Vital. Mmh. Oui, c'est mieux.
Mais non, pourquoi?
Et des têtes d'affiche.
C'est un plus quand même.
Dans des théâtres privés, oui, mais et encore que je pense qu'il y a des.
Il y a des contre-exemples. Il y a eu des succès avec des acteurs.
Parce qu'en réalité, ce qu'on appelle les vedettes, alors appelons ça comme ça, puisque c'est le mot. Mmh. Alors on va considérer qu'on est des vedettes. Hein. Allez. Ça va plus vite si ça marche,
ouais.
Pour que ça marche. Ça va plus vite. Mmh. Voilà. Mais s'il y a un spectacle magnifique, avec une belle mise en scène, une grande pièce, et des acteurs moins connus, ça mettra un peu plus de temps, mais ça marchera aussi. Ouais. Voilà. Le seul avantage des vedettes, comme on dit, c'est que les gens viennent plus vite.
On a envie de Stéphane Bern.
Ça a de la promesse. On reçoit même les autres. Mais avec moins de plaisir.
À ceci près que les vedettes ou les acteurs connus, appelez ça comme vous voulez, ne peuvent pas sauver un mauvais spectacle et une mauvaise pièce. Si c'est pas bon, ça se casse la gueule. Connu ou pas connu.
Oui, mais en même temps, on connaît Emmanuel Devos, et on connaît Pierre Arditi, et vous pourriez lire le bottin que ça m'intéresserait
bien
encore.
Bien sûr, donnez-moi un bottin, je suis certain que ça va intéresser.
Ça n'existe plus.
Sur Internet.
Comment il n'y en a plus?
Alors non,
donnez-moi un tiens.
Peut-être le bottin mondain, alors.
Emmanuel Devos, 06 34 59 96 9751.
Alors, on va résumer le début de la pièce. Pierre, vous êtes
Jacob Braquiche.
C'est un vieux prof à la retraite qui a été la terreur de ses élèves. Il était extrêmement dur et il faisait une sélection impitoyable pour l'entrée à l'université.
Le roi du zéro pointé, quoi.
Il est vieux, il est beaucoup plus
vieux.
Vous
l'avez déjà dit, ça fait deux fois, non, mais, ça va, c'est bon, non, mais, on a compris.
Je trouve ça très courageux.
Je me suis dit, c'est bon,
je trouve ça formidable parce qu'il s'est vraiment vieilli. C'est-à-dire qu'il est beaucoup plus âgé que vous dans la vie.
Il a 81 ans, je crois.
Parce que rappelons que ce personnage est vieux.
Il vit seul. C'est une espèce d'ermite de mise en
trouble. Vieille ermite.
Coincé.
Avec
ses livres et sa radio. Oui. Et il est malade. Bon, on sent qu'il lui reste. Il est au bout de sa vie, quoi. Il est au bout du rouleau.
Mes enfants, ça m'a fait plaisir de vous revoir. Je ne vais pas pouvoir rester.
Et il a besoin de quelqu'un pour s'occuper de lui. Et c'est là que survient Kathleen.
Une très jeune femme. Très jolie. Oui.
Plus jeune que.
Beaucoup plus jeune.
Alors pour le coup, moi, je suis plus vieille que le rôle, effectivement.
Voilà. Kathleen, c'est vous, Emmanuel. Alors on va comprendre assez vite que vous n'êtes pas une simple aide médicale, que vous n'êtes pas là par hasard. D'abord, si vous étiez là par hasard, il n'y aurait pas de pièce.
Oui, c'était juste pour choisir.
Ça n'a aucun intérêt.
Je crée un rapport.
Oui, il aurait pu être
là par hasard.
Mais là, bon.
Mais non,
on va remonter dans l'histoire de leur vie. Quoi.
Je ne suis pas certain que ce type va nous aider dans la promotion du spectacle.
C'est quand il va donner la fin.
Non, je ne suis pas sûr. Mais en tout cas, il ne faut plus rien dire.
Oui, je ne dis plus rien.
Il ne faut pas dire pourquoi.
C'est-à-dire qu'on n'a rien dit. On n'a rien dit. Mais ça dit plein de choses sur aussi la solitude, sur la rancœur, sur les comptes qu'on n'a pas soldés dans sa vie.
Oui, aussi. Ça dit ça aussi. Mais ça dit aussi ce à quoi on croit, ou on a cru, ou on continue de croire, à un certain nombre de choses, ou plutôt, appelons ça, des valeurs, puisqu'on ne parle plus que de ça maintenant, les valeurs dans la vie. Mais c'est vrai qu'on a des valeurs. Et Brakhich, il est dur, il a été terrible avec les élèves, mais il avait des valeurs. Et il est fier, à un moment donné, il le dit d'ailleurs, je suis fier d'avoir empêché les idiots, les incapables, les feignants, sans oublier les tricheurs et les pistonnés, d'avoir empêché d'entrer à l'université pour les polluer. Voilà. Il n'a rien à regretter.
Vous reconnaissez dans votre personnage ? Il y a quelque chose de vous ?
Mais il y a toujours. Ça n'existe pas, des personnages qui... Vous savez, les acteurs sont des gens qui, quand ils sont de véritables acteurs, ce qui est le cas d'Emmanuel De Vos, et je crois de moi-même, sont des gens qui sont, au fond, profondément infréquentables. Pourquoi ? Parce qu'ils contiennent à l'intérieur d'eux un certain nombre de choses que nous contenons tous, mais nous, on est payés, quelquefois bien, quelquefois moins bien d'ailleurs, pour les extravertir et pour les mettre en lumière. Alors que les autres s'ingénient à les enfouir pour ne pas savoir qu'ils les contiennent. Bah, nous appartenons à cette catégorie d'êtres humains, qui est un peut aller chercher à l'intérieur. Moi, il m'est arrivé d'être lâche, il m'est arrivé d'être couard, il m'est arrivé de mentir, il m'est arrivé beaucoup de choses.
Ah oui.
Et ça sert tout le temps. Ça sert tout le temps. À un moment donné, je peux l'habiter, peux le nourrir, parce qu'il y a toute une série de choses. Mais il peut aussi être dévasté.
Oui, il y a aussi des...
Il peut aussi être déchiré par
terrible,
un certain nombre de choses qui me déchirent, moi aussi. Mais c'est pas la différence, si vous voulez, entre le psychodrame et le métier de l'acteur, c'est que lui, il peut se servir de ses propres émotions, mais à un moment donné, c'est mis au service d'une œuvre d'art qui s'appelle une pièce, et qu'à un moment donné, même si on a l'âme déchirée, elle doit être déchirée entre tel moment et tel moment. Avant, non. Après, non. Alors, c'est encore plus pervers.
Et vous, Emmanuel, vous vous retrouvez dans le personnage de Kathleen ?
Oui, par des drôles de combinaisons, mais oui. Enfin, en tout cas, je me retrouve en tant qu'actrice dans le personnage de Kathleen.
Mais il y a des choses en elle qui vous ont touché.
Oui, énormément. Il y a une demande d'identité, notamment, que je trouve extrêmement touchante. Elle vient chercher une identité. Voilà, quand on dit ça, c'est vague, mais c'est vrai.
On comprendra.
Et une légitimité.
C'est très, très difficile à raconter la pièce. Parce que
sinon, on
révèle après. Sinon, on spoil le tout.
On ne peut pas raconter. Parce que
c'est une pièce à secret.
C'est ça.
Donc,
si on révèle les secrets, c'est fini.
Du coup, on va écouter un disque.
Et ben voilà.
Voilà, allez,
on écoute.
Formidable cet écran, parce que toutes les réactions sont reproduites 10 secondes après. Donc, quand j'ai fait ça, par exemple, je regarde et je me vois faire. Oui, c'est.
Vous avez 10 secondes pour
comme un écho.
Mais regarde ça, c'est
C'est la première fois que vous avez l'impression de jouer faux. ne vous regardez pas, moi je me regarde jamais.
Vous écoutez RTL.
RTL,
à la bonne heure.
Stéphane Bern.
Et nous sommes toujours avec Pierre Arditi et Emmanuel De Vos pour cette pièce Quelque part dans la vie.
Dans cette vie.
Pardon, c'est effrayant. Ce type, il ne comprend rien de ce qu'on lui dit.
Je te signale qu'Emmanuel De Vos n'est pas la fille de Raymond De Vos. Voilà, c'est ça que je voulais dire.
Je suis la nièce de Guy Bedos. Je suis la cousine de Nicolas Bedos.
Attention, parce qu'il y a un vrai faux tout à l'heure. On va peut-être en parler.
On va peut-être en parler.
On a des dossiers.
Il n'est pas le frère de Colette Mailly. Alors, allons-y.
Bien. Eh bien, ce que je vous propose, c'est. Non, j'avais une question. Est-ce que vous aviez vu Pierre Dux et Jane Birkin jouer la pièce ? Ils l'avaient joué à.
Oui, ils l'ont joué au Bouffe Parisien.
Ouais. Exactement.
Et moi, je l'ai vu.
Et vous l'aviez vu
en 90. Je l'ai vu, j'étais né déjà, malheureusement.
Non, mais c'est vous qui en parlez.
Oui. C'était très différent et formidable.
Très différent aussi, moi.
Très différent et formidable.
Vous l'aviez vu aussi, Patrice ?
Oui.
Non, mais dans les 90, on pouvait encore aller au théâtre.
Oui. C'était en
90
ou 11.
90,
c'est ça, oui.
Cela dit, c'est vrai ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que l'adaptation par Jean-Loup Dabadie apporte aussi une forme de douceur, peut-être amène les choses de façon moins abrupte et s'adapte, c'est le principe de l'adaptation, à notre caractère français, en fait.
Oui, absolument. Parce que dans la pièce originelle, je l'ai lue, et il y a du connard tous les trois mots, espèce de vieux débris, il y a des choses qui sont... Genre, je pense que... Voilà,
on vous avez gommé ça, donc.
Oui, mais c'est...
Une demande de Pierre.
Franchement... je trouve presque l'adaptation de Jean-Loup plus intéressante que la pièce originale. N'écoutez pas Monsieur Horowitz.
Oui. Oui, oui, mais bon,
au point où il en est. Il est très malade en plus. Oui, là, oui, mon Dieu. Oui,
oui. Mais dessus. Alors, vous êtes à 3 jours de la première. Dans quel état d'esprit? Alors, vous n'avez pas dormi? J'ai entendu ça, mais ça vous met toujours ce...
Cette... Oui, oui, bah oui, oui.
C'est l'examen. Oui, bah, c'est l'examen vendredi.
Oui, c'est pas l'examen. Mais en même temps, c'est formidable d'enfin jouer devant
des gens. Oui, c'est toujours la même chose. À la fois, on est mort de trouille, mais en même temps, on ne peut plus faire des filages devant une salle vide, donc on a envie d'avoir le public.
Et la couturière est quand? C'est jeudi.
Jeudi.
La couturière, au moins, vous avez.
La couturière, elle est pleine.
Elle est pleine déjà? Ah oui.
Ah, c'est plein, oui.
Je ne savais pas.
Et vous, alors, c'est drôle, parce que vous, vous aimez savoir, Pierre, qui y a dans la salle, et vous, Emmanuel, pas du tout?
Oh, moi je m'en fiche. Il y a 2-3 personnes dont je ne veux pas connaître la présence parce qu'elles m'intimident. Mais sinon, non.
Est-ce qu'on l'a jeudi soir? Nous, on a les noms.
Non, mais moi, j'aime bien.
Enfin, j'aime plus. On me le dit, ça me va. Ce que je ne fais plus, ce que je faisais quand j'étais plus petit, vous savez, il y a toujours une petite fente dans les dos.
Oui, pour voir.
Alors ça, plus jamais je ne le fais.
Pourquoi?
Parce que ça me. Je sais pas, j'ai pas envie de voir des visages qui étaient
là. Vous dévisagiez les gens qui étaient là,
ça? Ah oui, complètement. Ouais. Ah oui, mais genre, merde, il y a ça. Donc
vous déplaciez le rideau, en fait. Ouais.
C'est le contraire d'Edith Piaf qui, elle, quand elle entrait en scène pour chanter, elle choisissait un visage qui lui plaisait.
Mmh. Ah oui, elle chantait pour lui.
Que pour lui.
Ouais.
Et quand elle chantait que pour lui, ça commençait. Il y a une onde bienveillante qui s'étendait, et au bout d'un moment, elle tenait le public dans ses bras.
Mais quand la scène s'allume, quand vous jouez, vous ne distinguez plus après
non,
le...
Non, des ombres. Non, on voit rien, on est aveuglé. Non, mais si vous voulez vraiment regarder les deux premières, on doit les voir.
Oui, enfin,
c'est pas fait.
Oui, vous avez autre chose à faire.
Ça ne ferait pas un très bon spectacle, du reste.
La seule personne que je dois regarder, c'est Emmanuel.
Exactement. Eh bien, on va vous retrouver le vrai faux des invités dans un instant.
Vous écoutez RTL.
Le vrai faux de l'invité.
Alors, le vrai faux, c'est simple. On a plein d'informations à donner sur nos invités.
Oui.
Donc moi, je me charge du dossier Emmanuel De Vos, vous Patrick, du dossier...
Du dossier Pierre Arditi.
J'aurai moins d'ennuis. Vous dites c'est vrai, c'est faux. Emmanuel De Vos possède une maison de vacances. Et comme c'est une vraie maison de vacances, elle s'est refusée à l'équiper d'Internet. Elle n'a pas de réseau, elle n'a pas d'Internet, rien. C'est des vraies vacances.
Eh bien, dis donc.
Ouais, bravo.
C'est du dossier, tente.
Ça sent le vrai, ça, non?
Je dois répondre là.
Oui, ce serait mieux.
C'est vrai.
Vous n'avez pas la fibre. Comment faites-vous pour vivre dans ce monde?
Alors là, bravo.
Oui.
Non, ça fait beaucoup de bien.
Vous arrivez à décrocher, vraiment.
On décroche, vraiment. Oui.
Bon, on va au grand hôtel à côté, relever nos mails.
Sur le wifi, l'hôtel.
On passe à côté de l'hôtel avec l'iPad.
Sur le parking du McDo.
Ah, il n'y a pas de McDo non plus,
non,
dans cet endroit-là.
C'était juste pour ne pas payer, quoi, en réalité.
Oh, bien.
Bravo.
Oui, c'est bien d'être coupé. Ah,
on lit beaucoup plus, on écrit beaucoup plus, je vous assure. Essayez, c'est vraiment bien.
Oui, voilà. Ouais.
Alors, vous vous souvenez de la série Palace?
Bien sûr.
Oui,
dans laquelle jouait Pierre Arditi.
Ah oui.
Et un jour, il y avait une scène où Pierre Arditi jouait avec Pierre Mondi, à qui il devait dire « Enlève ton pantalon ». Et ça provoquait un fou rire de Pierre Arditi qui a duré 6 heures.
Ah oui?
Il a fallu appeler les pompiers, même, enfin, parce qu'après, il y a eu des rires qui se sont transformés en pleurs.
Après, tous ses partenaires
étaient inquiets. Non, mais ça a été très, très, très... Ça a duré plus de 6 heures.
Ça a été filmé
en... Ça va faire un épisode assez long quand même. On a envie d'y croire, c'est vrai?
C'est bien. C'est un Pierre Arditi qui fait 6 heures.
Et même dans le Guinness des records.
T'as eu un sourire de 6 heures?
Plus que ça.
Mais j'ai peur.
Le sketch de Rib, c'était Rib Topor-Volinsky, avec Mondi, qui est quand même Pierre, Pierrot.
Tellement drôle.
Pierrot, salut. On lui serrait la main, on lui disait bonjour, il allait en coulisses pour rire, puis il revenait. Donc là, je ne sais pas pourquoi, mais ça a aggravé mon cas, c'est que pour une fois, il avait une espèce de rictus, il avait inventé rictus. Il faisait tout ça. Il se laisse former, mais il ne riait pas. Et à un moment donné, je disais, Georges, oui, je t'aime. Mais moi aussi, André, je t'aime. Non, mais moi, je t'aime vraiment. Oui, mais... Non, mais moi, je t'aime d'amour. Je voyais qu'il commençait à se pincer des joues. Et puis après, le sketch déborde. Enfin, il y avait Marianne Chazelle. Et à un moment donné, ça me faisait hurler de rire. La tronche de mon lit me faisait hurler de rire. Et puis j'ai dit, attends, enlève ton pantalon. C'était absolument démentiel. Et ça a duré des heures, parce que pendant un moment, j'ai essayé de me retenir. Puis après, plus ça avançait, plus c'était nerveux. Et après, au bout d'un moment, le mec arrivait avec le clap. Déjà, j'étais en larmes. Je ne peux même plus dire. Et Rib me disait, je t'en supplie. C'est à une seconde, je ne peux pas monter. Je ne peux pas monter.
Attendez, 6 heures de rire,
voilà,
c'est une
on
souffrance.
On m'a tout envoyé. Le producteur qui était... L'Alzheimer est en route, hein, bon, je vous le retrouverai. Qui était magicien aussi.
Oui. Grand producteur de cinéma.
Voilà. Il a dit, non, laissez-le, moi ça me fait trop marrer. Je regarde et regardez ça comme ça. On a fait venir ma femme qui dit, écoute, franchement, il n'y a quand même pas, il y a 100 personnes. 100 personnes.
Oui, c'est ça, ça fout tout le
monde. C'est énorme.
Ça fout une journée de
100 tournée. Personnes qui attendaient. Toute la journée a été blindée. Complètement flingué à cause de moi. Donc, j'aurais pu faire une journée le lendemain. Donc, c'est vrai. Absolument vrai. Et maintenant, quand je revois ça, ça me refait rire.
C'est drôle. Christian Fechner. Heureusement qu'il y a Nicole Sonneville dans la coulisse.
Elle est bonne, cette Sonneville.
Elle est dans l'oreillette en radio, donc on entend tout.
Grand producteur et grand fan de magie.
Ah oui,
alors, information, donc, c'est confirmé. Emmanuel De Vos est la petite nièce de Raymond De Vos.
Mais bien sûr, qui ose en douter?
C'est vrai.
Mais non, je suis là. Je suis la cousine de Nicolas Bedos.
Ah, c'est vrai.
Oui. Non, alors on a un jeu avec Nicolas Bedos, qu'à chaque fois que quelqu'un, un chauffeur de taxi me dit « j'aime beaucoup votre frère », j'ai beaucoup aimé son dernier film, Monsieur et Madame Adelman, avec Pierre Arditi notamment. À chaque fois, on s'envoie un texto, on dit « voilà, alors on m'a pris pour ta cousine, ta sœur, ta... »
Ah,
bon, voilà.
Alors Pierre est un vrai fan de musique... d'accordéon. Il y avait notamment dans son panthéon, il y a Yves.
Dans son
panthéon, oui, il y a Yves.
Vous avez dit dans son pantalon. Oui, vous avez dit dans son pantalon.
Panthéon. Oui. Marcel Azola et André Verschuren. D'ailleurs, ils étaient très très voisins, puisque lui, il habitait Rueil-Malmaison, qui est Verschuren.
Ça veut dire quoi être très très voisin?
Oui. Il habitait Rueil-Malmaison, qui est très. Qui est Verschuren.
Vous avez noté ce jeu de mots? Rueil-Malmaison, qui est Verschuren. Verschuren.
Là, on voit le spécialiste.
T'es
mignonne.
Ouais,
c'est vrai. Alors, est-ce qu'il adore l'accordéon ou pas?
Marcel Azola, oui. Bah, qui n'aime pas Marcel Azola? Chauf Marcel.
C'est l'âge de son personnage.
Vrai.
Vrai.
Vous trouvez que c'est vrai?
Ah oui, c'est vrai. Ah, vous avez une tête à l'accordéon.
Oui. C'est faux. D'ailleurs, c'est agréable.
Magie, c'est faux.
Qu'est-ce que je peux dire? Je suis pas un fanatique de l'accordéon, mais vous avez raison, Marcel Azola. Bon, ça c'est mais même Verschuren ou Yvette Horner, ça a baigné le Musette, ça a baigné mon enfance. Alors,
pourquoi?
Quand j'étais très jeune homme, parce que j'avais l'âge, comme vous dites, comme vous le faites si aimablement remarquer, et j'ai écouté ça le dimanche matin, on entendait.
Oui, à la radio, on entendait ça.
Alors, c'était Radio Luxembourg à l'époque, c'était pas tel.
Voilà.
Mais c'est... Alors, je peux pas dire que je sois un fanatique, sauf quand l'accordéon devient un accordéon de jazz, par exemple. Ce qui est le cas avec ce merveilleux accordéoniste. Celui-là aussi va m'échapper. Comment ?
Galliano,
voilà.
Pour
très bien.
Tout, il va falloir tout vous
souffler. Voilà, Piazzolla avec le bandoneon, voilà.
C'est un jeu, en fait.
Oui, non, mais c'est là, ça se barre.
Mais il y a un souffleur au théâtre Édouard VII.
Il était produit par qui, Galliano?
J'y suis sentimentalement attaché parce que ça fait partie d'un bout de ma vie. Je suis pas un hystérique, mais je me souviens, c'était quand j'étais jeune, c'était ringard l'accordéon. Après, quand j'étais un peu moins jeune, c'était moins ringard parce que j'étais moins con aussi. C'était des vrais musiciens, des beaux musiciens, comme c'était populaire.
Vous écoutez RTL.
Stéphane Bern,
à la bonne heure.
Nous
sommes toujours. Alors, j'ai pas fini dans mes interrogatoires. Emmanuel De Vos a joué dans beaucoup de films qui sont pas forcément des comédies. Et pourtant, le film qu'elle connaît par cœur, c'est Papy fait de la résistance.
Elle est vraie et elle nous donne quelques répliques.
Alors, je peux aussi vous chanter le petit vin blanc. C'est solennel, sans être pesant. C'est une réplique de Jacqueline Maillan à Roland Giraud qui joue l'officiel. Ah oui, c'est un
c'est
film
vrai,
qui me fait mourir de rire. En plus, il y a tellement d'acteurs incroyables. Jean Carmet.
Bonjour, colonel Vincent, super résistant.
Bah, je vous appelle super ou résistant?
Appelez-moi super, pas de chichi.
Bon.
Et Julio, très énervé.
Ouais, alors, on a parlé de Raymond Devos tout à l'heure, mais Pierre est cousin d'un prix Nobel de littérature qui est Elias Kanetti, le grand poète grec.
Je ne suis pas vous vexer, mais moi je dirais faux.
Bien, vous ne me vexez pas, mais c'est vrai.
C'est vrai.
Alors, ceci étant, c'est pas un grand poète grec, parce qu'il est, il est d'origine. Il est, pardon.
C'est un grand poète.
Ben, c'est un prix Nobel de littérature.
Oui.
C'est un grand écrivain. Et simplement.
D'origine grecque.
L'origine, je crois, elle est salonicienne, comme la mienne d'ailleurs. Mais effectivement, c'est ma famille directe, ouais. Puisque la mère d'Elias Kanetti était une Arditi.
C'est ça, c'était le frère.
Je suis désolé de vous le dire.
Et c'était le frère de Jacques Kanetti.
C'était le frère de Jacques Kanetti, ou Jacques Kanetti était le frère d'Elias.
Oui,
et de Georges. Georges Kanetti, qui était un physiologue renommé. L'Institut Pasteur était mon parrain. Jacques Kanetti était. Donc, j'étais le petit cousin de Jacques qui a créé les Trois Baudets, qui était petit par la taille.
Toute la chanson française.
Par la notoriété, puisqu'on parlait de Brassens. C'est lui qui a découvert tout ça.
Tout ça vous devez tant à votre généalogie, alors c'est fou.
Moi, je complète sa fiche Wikipédia. Alors.
Et puis Elias, qui m'a fait sauter sur ses genoux quand j'étais tout petit, et qui, dont j'ai enregistré des dizaines.
Incroyable.
C'est même sur les écrits de jeunesse qui ont été enregistrés sur vinyle dans cette magnifique collection Jacques Kanetti présent. Je rêvais d'avoir ça. Et ma cousine, qui est la fille de Jacques, m'a dit on va faire un CD, mais je te promets qu'on va faire un tirage de 1000 vinyles.
Ça sera pas mis en vente,
pour te faire
juste
plaisir. Et voilà.
On va retrouver
c'est lamentable. Regarde cette nouvelle moumoute est superbe. Alors, mes enfants.
A tout de suite, il y a Régis Maillot qui trépigne.
Vous écoutez RTL. L'interro Maillot.
Alors Régis, c'est à vous Régis Maillot.
C'est parti, alors le pic de crue de la Seine s'est terminé ce week-end aux grandes dames des journalistes de BFM qui espéraient bien voir des rats manger des vieilles dames pendant qu'un quart de Chinois prenait l'eau. Alors je vous donne trois titres de presse, Patrice Kermouze, il y en a un qui est vrai. Vous êtes prêts?
Oui.
Alors, premier titre dans Le Parisien, grosse opération pompage au bois de Boulogne. À votre avis, c'est vrai? Faux. Gouvernement annonce un fonds de plusieurs millions versés en liquide.
Non.
Non. Et dernier titre, Gérard Collomb veut des sirènes dans chaque commune inondable.
Ah ben c'est bon,
exactement.
C'est vrai.
fallait oser.
Mais
bonne réponse.
Qu'il a interdit les queues de poisson.
Oh, ben dis donc. Stéphane Bern, tiens, puisque nous sommes dans l'actualité parisienne, prenons des nouvelles d'Anne Hidalgo. Elle veut ouvrir quelque chose, Anne Hidalgo, encore un nouveau truc. Je vous donne quatre possibilités, il y en a un qui est vrai. Un camp de migrants gays et lesbiens porte de Bagnolet.
Non, je crois pas.
Une nouvelle voie de circulation destinée à accueillir uniquement les trottinettes.
Non.
Un bus électrique customisé en salle de shoot ambulante.
Non.
Ou un quartier uniquement dédié aux enfants à Paris.
Oui.
Exactement.
Un ghetto pour enfants.
C'est génial, hein. Enfin, c'est bien pour les pédophiles parce que tu sais jamais où trouver une adresse. Là, au moins, toi, tu te trompes pas. Toi,
c'est horrible.
Bah,
un quartier pour enfants.
Bah oui, ils veulent faire ça.
Un quartier pour enfants.
C'est mignon, hein. Tiens, passons la partie glamour qui nous vient de l'Italie. Vous connaissez Silvio Berlusconi, Emmanuel?
C'est ce monsieur qui est plus maquillé que sa femme.
Exactement. Retour de l'affaire Ruby Gate. Vous vous souvenez, c'était
le Ruby. Jeune femme.
Ouais, exactement. Il était soupçonné d'avoir rémunéré les prestations d'une prostituée Ruby. Bon, jusqu'ici, rien de nouveau sur le Rubicon, sauf qu'on a appris que la Ruby était mineure au moment des faits. Bon, lui, il était majeur, c'était pas son problème, hein, donc il savait bien. Le procès se rouvre, il est accusé de quoi, à votre avis? D'avoir acheté des témoins dans l'affaire Ruby? Ou de ne pas avoir laissé un pourboire, la jeune fille.
Il a acheté des témoins.
Exactement. Alors c'est assez, mais comme il est très malin, le procès qui devrait s'ouvrir aujourd'hui, retardé de 2 mois. Ouais. C'est bizarre. Tiens, Pierre Arditi, à vous de répondre. Si vous sentez en ce moment une odeur bizarre dans les rues, rien à voir avec la remontée des goûts dues aux inondations, mais c'est la grève dans les maisons de retraite.
Vous avez vu?
Ah
ouais, du coup, ça fouette un peu. Que signifie le sigle EHPAD, à votre avis? Établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, établissement des PP à durée déterminée, ou l'affaire Sarkozy, rappelez-vous, établissement des hauts pistonnets à Dada.
Premier.
Exactement. qu'on confondait à l'époque avec l'iPad. Bonne réponse de Pierre Arditi, bravo.
C'est normal, hein, parce que je suis concerné directement. Bah, hein, c'est normal. Hein, voilà.
On n'osait pas le dire.
Tiens, j'en ai une autre pour vous, Pierre Arditi.
Ah, mon Dieu.
On va parler d'espèces en voie de disparition. Vous savez que.
Bah, je suis concerné également, oui.
Exactement. Alors, bon, c'est le socialiste.
Je suis très bon.
Le socialiste va mourir. On l'a appris dans les journaux. Hein. Enfin, en même temps, il y a longtemps que le socialiste est mort. Il n'y a que les socialistes qui n'étaient pas au courant. Combien de militants recense-t-on aujourd'hui dans le Parti Socialiste au mois de janvier 2018?
3 000, je crois.
20 000.
Non. Il y a des chiffres. Vous me donnez un choix dans des chiffres. Vous me donnez des chiffres.
Allez, je vous donne.
C'est 40 ou 20 000.
Une fourche. Vous, à 10 000 près.
À 10 000 près.
Ouais.
Ouais.
C'est assez symptomatique. Hein.
C'est officiellement bah, 40 000.
En 81, c'était 214 000.
Oui, d'accord.
Aujourd'hui.
Ah bah maintenant, on est très loin du compte, là, maintenant. Ouais. Très, très loin.
40 000.
Mais vous voulez dire, les membres du parti. Enfin,
les militants socialistes.
Voilà, ceux qui ont leur carte. 40 000. Officiellement, c'est 40 000, mais
oui,
je crois.
Oui, non, mais c'est moins que ça. C'est moins que ça.
Mais je pense qu'ils sont 20 000.
C'est 20 000.
L'année dernière, on était à 100 000, à 20 000. Donc, il va falloir créer un fonds de soutien. Peut-être que Monsieur Patrimoine peut faire quelque chose. Bravo à tous!
Assez de boulot comme ça. Merci beaucoup, Régis Maillot. On va retrouver dans un instant Emmanuel Devos et Pierre Arditi quelque part dans cette vie. C'est au théâtre Édouard VII, mais on les retrouve dans un instant avec Éric Dussard pour le Zapping Télé. RTL, il est midi.
Bonjour, c'est Jean-Alphonse Richard.
Confidentiel sur RTL.
Là où il y a de la lumière, il y a toujours de l'ombre. Elton John, Gérard Depardieu, les Sœurs de Neuve, mais aussi Amy Winehouse ou La Calas, La Gloire et ses fêlures. Chaque samedi, en toute confidence, je vous raconte ces extraordinaires trajectoires où le succès cache souvent des pièges, des doutes ou des secrets d'enfance. Les célébrités et l'envers du décor, c'est ensemble et c'est confidentiel sur RTL.
Confidentiel, présenté par Jean-Alphonse Richard, tous les samedis à 14h sur RTL.
À la bonne heure, Éric Dussard met la télé sur écoute.
Alors Éric, on commence avec un joli concept.
Et oui, on en parlait l'autre jour pour rigoler, vous vous souvenez, on se disait qu'après l'amour est dans le pré, on pourrait faire l'amour est en prison, avec des célibataires qui seraient cette fois des détenus. Eh bien, figurez-vous que ça existe.
Non.
C'est l'émission de William Lémergie sur C8 qui a repéré cette petite merveille qui est diffusée à la télé américaine.
C'est bon ça. Ils ont trouvé l'amour en ligne.
Il habite où ? Il habite en Californie.
Avec un craint détenu.
Il est en prison.
Ils n'ont jamais été ensemble en dehors des murs de la prison.
Mon mec est un mec bien.
Une fois libéré, il prévoit de se marier.
Je suis mormon, il fait partie d'un gang. Il a tué quelqu'un.
C'est sympa, hein? Alors pour eux, évidemment, il n'y a pas de dîner aux chandelles, c'est au parloir de la prison hein, qu'ils font connaissance. Et puis après, quand monsieur sort, on voit s'il peut y avoir union et avoir mariage. Alors je sais ce que vous allez me dire, ça n'arrivera jamais en Europe. Et pourtant, rappelez-vous, dans la version belge de L'amour est dans le pré, on n'était pas si loin de ce concept avec ce candidat-là.
Suite à mon premier travail, j'ai eu un gros problème avec mon supérieur. Et je l'ai malheureusement.
Oui, bon, ça peut arriver à tout le monde. Un petit coup de sang, et puis bon, bah voilà, la boulette.
Malheureusement.
Il regrette.
Moi, ce que j'avais pour faire, c'était la tête de la dame qui était en face de lui.
Il avait une belle voix.
Il avait une belle voix, ouais. Du reste, l'amour est enterré au fond du pré, ça ferait aussi un joli concept. Allez, bon, en parlant de l'amour est dans le pré. Hier soir, sur M6, c'était un épisode spécial. L'amour est dans le pré, que sont-ils devenus avec d'anciens candidats qu'ils ont retrouvés? Et parmi eux, ce monsieur. Qui cherche à perdre du poids.
Comment tu peux expliquer que je suis tous les week-ends sollicité?
Mais des filles, par des filles.
Ouais.
Non, bah là tu perds du poids normalement.
Non, normalement, mais le problème c'est qu'elle souffle au lieu de respirer.
Comment ça elle souffle? Elle souffle au lieu d'aspirer. Vous êtes en forme.
Ah bah ça c'est le cas de le dire, on voit bien de quelle forme elle parle Karina Marchand. Hein. Non, ça reste toujours très chic, vous voyez. Place maintenant un homme qui souffle. Lui, c'est lui qui souffle. Il n'a pas le choix, pas d'autre choix que de souffler pour retrouver sa petite copine, puisqu'il vit avec une sorte de poupée gonflable. Une poupée en latex, pour être plus précis. Elle s'appelle Irena. On a fait la connaissance d'Irena, puisque monsieur est venu avec elle sur le plateau Thierry Ardisson le week-end dernier. Tout se passe bien, sinon que parfois, bah, le regard des autres est un peu pesant.
Alors, c'est vrai que des fois, c'est pas facile quand même.
Oui, absolument, je pense. J'en fais l'expérience quand on a l'occasion de sortir en public. Encore en ce moment, ne serait-ce que hier soir à l'hôtel, on a pris l'apéro ensemble. J'espérais être tranquille, c'était raté.
Vous l'aimez pour son look, pour sa...
Son regard. Tous les soirs, quand on se couche, avant d'éteindre la lumière, je la regarde longuement dans les yeux. Et Elle me fait rêver, elle me raconte des histoires.
C'est plutôt un amour platonique, on peut dire.
Ouais.
Ah bah oui. L'avantage, c'est que s'il décide de consommer, vu qu'elle est en latex, il n'aura pas besoin de s'équiper. Le pire, c'est que ça coûte une fortune. Hein. J'ai regardé les prix sur Internet. Ah bah oui, il faut bien bosser.
Ça m'étonne de vous.
Alors c'est environ 2000 euros, hein.
Pour avoir quand même.
Ouais, quand même 2000 euros la poupée. Mais alors attention,
il y a
une offre spéciale en ce moment, je vous jure que c'est pas une blague. Pour une poupée achetée, une deuxième tête offerte.
Une deuxième tête,
ouais.
Elle peut changer.
Oui, bah c'est bien ça pour les psychopathes qui veulent les décapiter. Il y a une deuxième tête offerte en ce moment. C'est, la poupée est une femme.
Mais c'est gonflable.
Non, c'est en latex. C'est en latex, oui, oui. Bah 2000 euros, écoutez, c'est pas un matelas gonflable non plus.
2000 euros, tu peux avoir deux têtes.
Là, elle peut faire la tête.
Il y en a 1008 aussi, mais elles sont plus moches. Alors vous voyez, il y a toute une gamme de prix.
Très bien. Et qui a tué François Fillon ?
Eh bien, c'est la question que posait BFM TV hier soir dans un documentaire consacré au déboire du candidat Fillon à la présidentielle. Alors ça a commencé très fort, leur enquête. Hein. Première minute, bim, une info inédite.
Ce mardi 24 janvier 2017, les locaux de campagne du candidat s'animent vers 18h. Environ 200 personnes sont conviées à la galette des rois autour de François Fillon. En coupant la galette, François Fillon a-t-il remarqué un détail de bien mauvais augure ?
Ce qui frappe les uns et les autres, c'est que les fèves qui sont dans la galette des rois, c'est un chat noir. Et partout dans les galettes, vous retrouvez des petits chats noirs.
Un bout de porcelaine tellement déconcertant que Thierry Soler l'a même immortalisé. Voici donc l'original, un petit félin aux yeux jaunes.
Oui, non, ils avaient des preuves quand même, ils avaient la fève et tout. Vous êtes jaloux, Stéphane, vous n'avez pas cette fève-là. Vous
n'avez pas celle-là.
Appelez Thierry Soler, il l'a.
Oui.
Il l'a gardée. Ah bon, c'est ça qui a été vilaine, cette fève. Chat noir aux yeux jaunes.
Oui, je suis fabophile.
Ouais.
Oui. Comment s'appelle ça?
Entre autres choses.
Entre autres choses.
Il est vérandophile aussi, Véranda. Bon, blague à part, il y avait pas mal d'infos dans ce documentaire, par ailleurs très bien raconté, où on a pu voir celui qui avouait hier matin sur BFM TV avoir voulu, je le cite, niquer Fillon. Vous savez, c'est son ancien ami Robert Bourgi. C'est lui qui, après avoir offert des costumes, est allé balancer l'info au journal du dimanche. Et évidemment, à la veille de la publication du JDD, eh bien, c'est la panique dans le camp Fillon.
Ce samedi-là, Robert Bourgi goûte au Bristol avec ses petits-enfants. Il est appelé par Anne Méo, puis François Fillon. Au bout de 4 appels, Robert Bourgi finit par prendre le candidat au téléphone.
Il me dit « Robert, je me suis laissé dire que demain, le JDD sortait un article sur les costumes. Comment est-ce possible ?» Je lui écoute, moi je ne sais pas, tu sais, il y a des fuites partout. Hein. Je sais mentir quand il le faut. Hein. Mais est-ce qu'il n'est pas possible d'arrêter le JDD ? Lui dis-je de manière fourbe. Et il faut être fourbe quelquefois.
Oui, oui, lui apparemment c'est plus que quelquefois. Ah bah oui. Hein, il semblerait qu'il soit quand même abonné au truc. Il a quand même eu le vice d'aller payer les costumes. Hein. Parce que dans la chronologie, c'est quand même, il est allé payer les costumes après que François Fillon eût commencé à lui faire la tête. Il est allé payer les costumes qu'il n'avait pas encore réglés pour avoir la preuve.
Ouais.
Et ensuite l'envoyer au JDD. Vous voyez, il y a quand même tout un cheminement dans le genre « je me venge » qui est quand même pas mal. Ce documentaire a très bien fonctionné, 1 600 000 téléspectateurs sur BFM TV hier soir. C'est un gros score pour la TNT, ça en a fait la troisième chaîne de France avec 9% du public. Notez qu'il sera rediffusé samedi prochain, 13h, 19h et 21h.
Très bien, et on termine avec celle qui détient la vérité.
Exactement. Cette supportrice de Laurent Wauquiez, interrogée hier soir dans l'émission d'Yann Barthès, elle sait très bien qui a tué François Fillon.
Toute la télévision, tous les journalistes ont cassé Fillon. Lui, on est.
C'est pas qu'il s'est cassé tout seul, François Fillon ?
Non, pas du tout. On va savoir ce qui s'est passé. Bon, on sait très très bien que c'est les francs-maçons et les homosexuels qui lui ont tiré. Le jour de son intronisation, il est allé devant la pyramide du Louvre. Bah, vous savez que le triangle, c'est la. Ce sont les francs-maçons, le triangle.
Ça tient, vous voyez, il n'y a pas besoin de cette enquête de BFM TV.
C'est con, mais oui, elle a oublié les juifs, c'est con, hein. C'est con, ouais, j'ai pas de mémoire. Oui, oui,
on ne nous dit rien.
Ça dit, il avait des connexions. Merci beaucoup, Eric Dussard.
Les pyramides d'Égypte, c'est des maçonniques portugais,
bien
évidemment.
Sûr. Mais, bah, bien sûr.
Vous écoutez RTL.
11h, 12h30.
À la bonne heure.
Stéphane Bern sur RTL.
Et nous avons la chance d'avoir avec nous, non seulement Emmanuel DeVos et Pierre Arditi pour quelque part dans cette vie, mais Fred Radix, dit le siffleur. Alors, Fred, vous êtes à partir de demain sur la scène du Grand Point Virgule, du mercredi au samedi à 19h45. Vous, je l'ai dit, vous appelez Fred Radix, mais en fait, on vous appelle le siffleur.
Parce qu'il siffle.
Parce que votre métier, c'est de siffler, n'est-ce pas? C'est de siffler.
Non, soyons précis. En fait, je suis comédien et j'ai créé un spectacle autour de ce petit don que je travaille depuis des années, qu'elle sifflait. Mais moi, sur les routes de France, les metteurs en scène avec qui je travaillais me disaient, mais quand est-ce que tu montes un spectacle autour de cet instrument que plus personne ne pratique, puisque Micheline Dax n'est plus là. J'ai trouvé le bon angle, le bon axe, et j'ai créé ce personnage en queue de pie, nœud papillon, qui vient parler de la musique sifflée comme d'une mélodie et d'un air, une discipline oubliée, et que mon personnage remet en valeur, et il fait comme ça le tour de la musique sifflée de Mozart à Morricone.
Oui, c'est un spectacle humoristique.
Le personnage est complètement décalé. Ouais. Il est sûr qu'il est le Pavarotti du sifflet, que tout le monde connaît la musique sifflée. Alors il se retrouve un petit peu
coincé. Mais c'est un don de savoir siffler.
Non, je pense que tout le monde est capable de siffloter.
Pas comme vous.
Alors moi j'ai travaillé. Évidemment,
Ça se travaille. Il y a des profs de sifflage.
Mais non, malheureusement, il n'y a pas de prof de siffler. Il faut apprendre tout seul, travailler la musique.
Déjà, mettons-nous d'accord.
Se muscler de visage pour enchaîner les notes.
Se muscler le visage.
Ah oui,
oui. On muscle quoi, par exemple,
les muscles zygomatiques. Ceux qu'on fait travailler en rigolant, on les travaille en sifflant.
Mais déjà, est-ce qu'on dit sifflet, sifflage ou sifflement?
Alors, le sifflement, c'est quand ça fait mal aux oreilles. Hein,
ça peut, donc, quand on siffle.
Ouais. Non, on dit le sifflet.
Le sifflet, d'accord.
Vous m'avez coupé le sifflet, et là, on a compris.
On ne va pas lui couper, justement. On va l'écouter.
Vous voulez me donner une démonstration, peut-être?
Bien sûr. Alors, je ne savais pas trop quoi choisir, parce que lors de ce spectacle, on fait différentes œuvres. Alors, je me suis dit, je vais amener mes partitions, et je vais tenter un petit medley, je vais enchaîner comme ça les œuvres, on verra bien ce qu'il y a.
Un peu au hasard.
Comme ça, on verra, on fera un petit état des lieux de ce qu'est la musique sifflée aujourd'hui.
On fait l'émission comme ça, nous aussi.
Au grand point virgule.
Très bien, on se retrouve tout à l'heure.
Non, pas du tout.
Je plaisante. Je laissais monsieur partir se préparer.
Faisait la circulation comme ça. Notre vie serait bien meilleure.
Non, mais c'est ça monte haut.
C'est
insensé,
Il faut chanter juste, déjà, pour siffler.
Effectivement, non, il faut avoir l'oreille musicale pour travailler. Évidemment, il n'y a pas d'école de siffler, mais moi, j'ai fait des études de chant, donc le souffle, on en a besoin. La musculation du visage, et puis avoir l'oreille musicale, parce que siffler juste, c'est là où c'est un peu plus compliqué.
Et vous avez de nombreux chiens aussi, ce qui vous a permis de vous entraîner.
Moi, je savais siffler, pas comme vous, ils s'en foutent beaucoup. Mais alors maintenant, quand j'essaie de siffler, j'y arrive plus.
Et oui.
Alors c'est quoi? Ce serait l'âge, une fois de plus, qui m'empêcherait de siffler. Vous voyez, parce que si je fais...
Ça sort plus.
Ouais. Alors c'est quoi?
Alors moi j'ai des amis qui sifflaient et qui ont perdu des dents, qui se sont fait changer une dent et ça a complètement changé leur condition.
C'est le dentier.
Je voulais pas être désobligeant, mais c'est la vérité.
Mais il paraît que j'ai un remarquable coefficient de dilatation.
Alors bon, mes enfants, arrêtons mes petits enfants, allez un peu d'élégance. Fred Radix, le siffleur. On le retrouve, il est au grand point virgule à partir du 31 janvier, du mercredi au samedi à 19h45. On retrouve Patrice Carmouze dans un instant. Et Fred Radix pour son quiz musical.
Vous écoutez RTL.
Le test à l'aveugle de Patrice Carmouze.
Ah, Patrice, alors, vous tombez bien, Patrice, parce que... Il y a le siffleur avec vous, Fred Radix. Oui. Nos invités, alors Emmanuel et Pierre vont jouer pour Annette. Et pour Annette, mademoiselle Annette.
Annette.
Et moi pour Yannick, voilà.
Et c'est donc Fred Radix qui va tout faire, c'est-à-dire qu'il a préparé lui-même un certain nombre de morceaux qu'il va siffler. Alors, il faut reconnaître, peut-être le film dont c'est tiré, si c'est un film, ou peut-être le chanteur, si c'est une chanson, je vous laisse y aller.
Et donc, à tour de rôle.
À tour de rôle, et on va commencer par Emmanuel et Pierre.
Il va vous ensemble.
You're a team.
Vous êtes une
équipe.
You're the team.
Alors, on commence par un petit indice. C'est un film anglais de 1957.
Voilà.
Le pont de la rivière Kouaï.
Bravo.
Bravo.
Annette.
C'est bien. Bravo.
C'est pas mal du tout. Le pont de la rivière Kouaï. Le suivant.
C'est Stéphane.
Alors, Stéphane, c'est plus compliqué parce que...
Ah bah voilà,
Non, vous allez voir, c'est musique sifflée française. Musicalement, c'est complètement différent, vous allez voir.
Musique allemande.
Non, musique allemande.
Non.
Les gens donnent un indice de funeste.
Il y a du képi.
Les gendarmes.
Bah oui.
Mais où?
À Saint-Tropez.
Bravo.
Un partout. C'est laborieux.
Mais c'était pour le plaisir d'entendre siffler. Jusqu'au bout.
Malheureux.
Il adore s'entendre siffler.
À nous.
Alors on poursuit. Alors cette fois-ci, attention. Un petit indice, les enfants sont avantagés puisqu'il s'agit d'un film de 1937.
Blanche-Neige.
Oui.
Blanche-Neige, elle est 7.
Bonne réponse.
Aïe, j'ai pris le bon boulot. Oui, ben j'étais pas né quand même. En 37, j'étais pas né.
Ah, ça c'est pas mal, hein, pour Stéphane.
Ah, pourquoi? Parce qu'il peut ressembler à un des personnages?
Oh, peut-être, oui, mais le premier.
On y va, attention, c'est parti.
Ah! Oui, New American, non?
Oui,
c'est
oui.
Le bon, la brute et le.
Il était une fois dans l'Ouest.
Non, c'est le bon, la brute.
Stéphane avait raison, c'est bien le bon, la brute et le truand.
Ah, non, l'autre, c'est ta 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 ta
ta ta ta ta ta ta. Je viens de comprendre l'indice, en fait, c'est dégueulasse ce qu'il a dit. Oui. Vous êtes le truand, c'est ça?
Non, j'ai dit le bon.
De partout.
Alors, Emmanuel et Pierre.
Une brute.
Les deux.
Emmanuel.
Alors,
et Pierre.
Un petit indice.
Ah oui.
C'est une pub.
Je connais ça par cœur. Ah oui, non mais.
Mais il faut reconnaître quoi?
Mais c'est une chanson, ça.
Mais c'est aussi certain.
Non, c'est un film, hein.
C'est un film.
On peut dire l'auteur, hein, peut-être.
Alors, l'auteur de cette musique.
Du film?
Bernard Herrmann. L'auteur du film, c'est Quentin Tarantino.
Tarantino.
Inglorious Bastard.
Non, un peu avant, juste un peu avant. Il y a eu une série.
Il y en a eu deux.
C'est très poétique, très joli, mais en fait, le film est
Nul. Oui, bravo.
Exactement.
3-2.
Kill Bill.
C'est les.
Alors, 1 ou 2, je sais pas.
1.
Stéphane.
Ah bah oui. Dans la forêt de Sherwood.
Oui, bravo. Donc c'est...
C'est Robin Hood, Robin des Bois,
bravo.
C'est Robin Hood.
Trois partout.
Bon, Emmanuel et Pierre, ça je pense que vous allez trouver, c'est assez facile, il me semble.
Singing in the rain.
Bravo.
À moi.
À vous, et là c'est un générique, hein.
Ah, mais c'est Mabrouk.
Regardez ça. Alors ça, il a reconnu tout de suite.
La musique classique, non, mais...
C'est ça,
50 millions d'amis. Ça, là, ça, 30 millions d'amis. Ça, là,
voilà. Assez rapidement. Un départage, alors. Alors, attention, alors là, c'est le plus rapide entre Emmanuel Pierre ou Stéphane.
Ah oui.
Voilà, donc...
Emmanuel,
vous êtes ensemble.
Vous... Vous donnez un indice ou pas?
Non, pas d'indice.
Pas d'indice.
Ça va tous les aider.
Attention. Attention.
Non.
Ah oui.
Ti da 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 da. Ti da ta 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 ta.
Je connais toi, oui.
Attends, je connais ça par cœur.
C'est oui, Don't Worry Be Happy.
Oui, mais
oui, bravo.
De Bobby McFerrin.
Bobby McFerrin.
Oui,
allez,
c'est ça. Ah oui, mais moi je pense.
Et c'est donc. C'est donc Stéphane qui gagne sur le poteau. Et c'est normal.
En tout cas, merci à Fred Radix, le siffleur au grand point virgule du mercredi au samedi. Et puis, un immense merci à Emmanuel. À Emmanuel Devaux, j'allais dire Bedos.
Et Pierre.
Pierre Canetti. Pierre Arditi. Tous les deux, on vous retrouve évidemment sur la scène du théâtre Édouard VII pour notre plus grand bonheur à partir de vendredi 2 février. Merci. Quelque part dans cette vie d'Israël Horovitz, adapté par Jean Labbadie et mise en scène par Bernard Murat. On a hâte. Merci d'avoir été avec nous. Demain, nous serons avec Calogero, RTL. Merci de nous avoir suivis sur RTL. Bonne journée à l'écoute d'RTL. Il est midi et demi.
Vous écoutez RTL.